parlant de la Chine et de ByteDance dans le contexte de l'actualité de TikTok et dans le contexte aussi où de plus en plus de joueurs chinois nous offrent leurs services en ligne, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire le point sur la situation de la tech en Chine et comment le gouvernement de Beijing encadre le développement de la technologie là-bas, incluant évidemment le défi de l'IA. Pour en parler, je vous propose une entrevue avec l'auteur d'un tout nouvel ouvrage sur le sujet qui vient de paraître aux éditions Oxford University Press, iWire, est signé par Angela Zhang. Elle est professeure agrégée de droit et directrice du Centre Phillips K.H. Wong sur la loi chinoise de l'Université de Hong Kong. Et c'est justement là qu'on va aller la rejoindre dans un instant. Ce que vous allez entendre, c'est la version française d'une entrevue qui a été réalisée précédemment en anglais, il y a quelques jours. Et grâce à l'outil de traduction de Rask.ai, je peux vous l'offrir en français. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Allez, de ce pas, on se rend à Hong Kong. Bonjour Angela Zhang.
Bonjour.
Angela Zhang, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire iWire?
My first book, mon premier livre s'intitule Chinese Antitrust Exceptionalism, How China Challenged Global Regulation, comment la réglementation chinoise a remis en question la réglementation mondiale. Ce livre est sorti à un moment extrêmement opportun puisqu'il a été publié en mars 2001, quelques mois seulement après la répression massive de la Chine dans le domaine de la technologie. Il a donc immédiatement attiré l'attention de la presse. Je suis devenue la personne de référence pour la presse et pour de nombreuses banques d'investissement parce qu'elles ont perdu beaucoup d'argent pendant la répression et qu'elles cherchent désespérément à comprendre ce qui se passe avec la réglementation chinoise en matière de technologie. Et comme vous le savez, l'antitrust était le principal outil réglementaire utilisé par le gouvernement chinois pour discipliner les entreprises technologiques. C'est donc à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser de très près à la réglementation de l'industrie technologique en Chine. Et évidemment, j'ai commencé à élargir mon champ d'études parce qu'au départ, je ne me spécialisais que dans l'antitrust. Puis j'ai commencé à m'aventurer et à m'intéresser à d'autres domaines de la réglementation qui affectent l'industrie technologique, comme les données, le travail, la fintech. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de matériel et que je devrais écrire un livre sur le sujet. Et c'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser au sujet.
Dans votre livre, vous parlez du modèle de la pyramide dynamique. Est-ce que c'est possible de m'expliquer, d'expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est?
Lorsque j'envisage d'écrire ce livre, je pense que les lois peuvent changer parce qu'elles sont tellement fluides et que la politique peut changer tout le temps. Mais je veux écrire un livre qui soit plus intemporel pour que les lecteurs le trouvent encore utile dans 10 ans lorsqu'ils liront les livres. C'est pourquoi j'ai décidé d'introduire un cadre analytique pour que les lecteurs puissent réfléchir à la manière dont la Chine réglemente les technologies. Ce modèle de pyramide dynamique se compose en fait de 3 éléments principaux. La première est la hiérarchie, la deuxième est la volatilité et la troisième la fragilité. J'utilise la hiérarchie pour décrire le processus réglementaire de la Chine comme étant très hiérarchique parce qu'il implique des acteurs de différents niveaux de la société chinoise. J'utilise ensuite le terme « volatilité » pour décrire son processus réglementaire qui tend à se caractériser par des cycles de durcissement et d'assouplissement de la réglementation. C'est pourquoi, vous savez, les investisseurs sont souvent très confus au sujet de la politique chinoise. Cela leur donne l'impression que la réglementation chinoise est très erratique, très arbitraire. En ce qui concerne le résultat de la réglementation, j'utilise la fragilité pour caractériser ce résultat. Car par fragilité, j'entends que très souvent des interventions réglementaires bien intentionnées peuvent générer de vastes conséquences imprévues. Et il faut souvent beaucoup de temps aux décideurs politiques pour se rendre compte de la gravité de ces effets secondaires. Ainsi, lorsqu'ils reviennent sur leurs décisions, il devient très coûteux de changer de cap et cela génère souvent des réactions négatives du marché.
Votre livre discute de la volatilité de la régulation technologique en Chine. Selon vous, qu'est-ce qui entraîne cette imprévisibilité et comment elle affecte les marchés mondiaux?
C'est un excellent point. La répression des entreprises technologiques chinoises a duré 18 mois et a fait disparaître plus de 1 000 milliards de dollars de la capitalisation boursière du plus grand géant technologique chinois. Cette volatilité provient de 3 sources et est en fait le résultat d'une hiérarchie. Il existe donc une interconnexion entre ces 3 caractéristiques majeures. Si l'on considère la structure hiérarchique, les décideurs chinois, c'est-à-dire les principaux dirigeants de la Chine, se trouvent au sommet de la structure politique et réglementaire. Je veux dire qu'il est un peu comme l'homme qui marche sur un fil, comme je le montre sur la couverture du livre. Il a dû faire preuve d'une grande capacité d'adaptation en équilibrant constamment différents intérêts concurrents. On peut dire que l'agilité de son action a introduit beaucoup de volatilité dans la gouvernance réglementaire de la Chine. La deuxième source de volatilité provient également de la structure réglementaire hiérarchique, à savoir le fait que les agences réglementaires chinoises ne sont soumises qu'à très peu de contrôle et d'équilibre. Lorsqu'Alibaba a fait l'objet d'une enquête pour violation de la législation antitrust et a finalement reçu une amende de 8 milliards de dollars, cette entreprise a fâché les régulateurs et a promis de se conformer à la législation. Ce genre de coopération est impensable dans toute autre juridiction. Il y a très peu de contrôle et d'équilibre dans le processus réglementaire, ce qui permet aux agences d'aller de l'avant très rapidement. Du point de vue des agences, c'est très efficace, mais en même temps, à cause de ce manque de contrôle judiciaire, cela a aussi introduit beaucoup de volatilité dans le système, parce qu'il y a très peu de résistance au cours du processus. Et le dernier facteur important, et je pense que c'est le plus important, de cette volatilité est le déficit d'information, qui est une faiblesse inhérente à un système équitable. Lorsque l'on est l'empereur au sommet, on est en fait très seul et on doit se demander si l'on reçoit suffisamment d'informations ou si les informations que l'on reçoit sont déformées. Le déficit d'informations est donc toujours un problème majeur pour les hauts dirigeants chinois. Il en résulte que lorsqu'ils prennent conscience de la gravité d'un problème, il est souvent très tard. Et le temps qu'ils commencent à changer de cap, cela introduit à nouveau beaucoup de volatilité dans le système réglementaire.
Dans iWire, vous explorez l'équilibre entre le contrôle gouvernemental et l'innovation technologique en Chine. Comment vous évaluez l'efficacité de cet équilibre pour favoriser un écosystème technologique sain?
Malheureusement, ce modèle de réglementation pyramidale dynamique tend à conduire à la fragilité, ce qui tend à être le résultat de ce modèle. C'est que oui, ils viennent avec de bonnes intentions en essayant d'équilibrer l'innovation et la réglementation. Et c'est précisément la raison pour laquelle, au début, lorsqu'un nouveau produit ou une nouvelle technologie apparaissait, le gouvernement avait l'obligation d'établir un équilibre entre les deux. Et c'est exactement ce que vous avez vu avec les entreprises chinoises de technologie grand public. Pendant près d'une décennie, il n'y a eu pratiquement aucune intervention réglementaire dans ce domaine. On assiste souvent à des méga-fusions entre les plus grands géants chinois de la technologie, comme le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, qui fusionnent tous ensemble. Et il n'y a pas de contrôle des fusions. Au début, c'était un peu l'Ouest sauvage. Puis tout d'un coup, ils ont commencé à prendre des mesures drastiques pour s'attaquer au secteur technologique et le pendule est passé à l'autre extrême. Soit le gouvernement en fait trop peu, soit il en fait trop. Et lorsqu'il en fait trop, cela crée une forte réaction du marché. Donc, cette répression devrait introduire plus d'innovation dans le secteur, attirer plus d'entrées ou, vous savez, essayer de changer la dynamique de la concurrence. Or, nous ne voyons rien de tout cela parce que les investisseurs se sont retirés des entreprises technologiques grand public en pensant, vous savez, que le secteur technologique chinois n'est pas investissable. Il y a donc moins d'entrées en ce moment, étant donné que les investissements ont diminué. Ainsi, beaucoup de petites et moyennes entreprises ont encore plus de mal à rivaliser avec leurs concurrents plus importants. Il en résulte que, oui, les grandes entreprises sont affaiblies, mais elles continuent néanmoins à occuper une position dominante sur le marché.
Selon vous, quels sont les défis réglementaires les plus significatifs auxquels les géants technologiques chinois sont confrontés aujourd'hui?
Et actuellement, nous sommes revenus à un autre extrême de l'assouplissement réglementaire, parce qu'à partir de 2002, l'économie chinoise s'est beaucoup battue. En effet, à partir de 2002, l'économie chinoise a connu de grandes difficultés. Il y a eu une vente massive d'actions technologiques chinoises en mars 2002. C'est à ce moment-là que le gouvernement chinois a envoyé un signal politique très clair et très fort au marché, indiquant qu'il n'allait pas assouplir la réglementation. Et depuis lors, nous constatons que les agences, même si elles identifient maintenant une violation, elles ne veulent pas imposer d'amende parce qu'elles ne veulent pas être perçues comme allant à l'encontre de l'initiative d'assouplissement de la réglementation prise par le sommet. Ils ne veulent pas non plus mettre l'entreprise en faillite ou lui causer des difficultés financières. Nous revenons donc à un autre extrême d'une nouvelle vague de répression à l'avenir.
Dans le livre, vous discutez de la campagne de prospérité commune en Chine. Comment ce contexte politique influence-t-il les mesures réglementaires contre les entreprises technologiques en Chine?
Comme vous vous en souvenez peut-être, cette initiative de prospérité commune a été introduite exactement au milieu de la répression réglementaire. Si l'on considère les mesures de répression plus générales, la Chine a éliminé les entreprises de soutien scolaire en ligne presque du jour au lendemain. La Chine a également mené toutes ses enquêtes antitrust, ses réglementations du travail dans le secteur technologique, et la Chine essaie également de pousser tous ces géants de la technologie et leurs riches patrons à faire des dons à la société et à améliorer les biens. Je veux dire que toutes ces initiatives, qui semblent n'avoir aucun lien entre elles et être tout à fait aléatoires, contribuent toutes à faciliter la tâche du président Xi Jinping de parvenir à une prospérité commune, parce qu'en fin de compte, la prospérité commune est destinée à lutter contre les inégalités dans l'économie. Donc, d'une certaine manière, comment aborder le problème de l'inégalité et la réforme du secteur du soutien scolaire en ligne, encore une fois, en essayant d'aborder, je dirais, la phase dite de pré-production de l'économie, en, vous savez, égalisant les règles du jeu entre les riches et les pauvres, et en essayant de permettre aux pauvres d'avoir le même accès aux opportunités d'éducation, parce qu'ils pensent que le secteur du soutien scolaire en ligne crée une concurrence excessive et toxique parmi les jeunes Chinois. Et puis, inciter les riches et faire pression sur eux pour qu'ils fassent des dons, c'est essayer de s'attaquer au problème de la redistribution. Car il est difficile pour le gouvernement de taxer les riches. Toutes ces mesures facilitent donc la réalisation de l'objectif de prospérité commune. Mais la façon dont ils essaient d'y parvenir est assez maladroite. C'est pourquoi beaucoup de gens ont l'impression que la Chine va revenir sur ses années de réforme du marché. Je veux dire que cela a créé beaucoup de conséquences inattendues.
J'aimerais vous entendre sur les implications internationales de la régulation technologique que les entreprises technologiques connaissent en Chine. Comment ça impacte les investissements étrangers en Chine et les entreprises technologiques mondiales?
Très bonne question. À première vue, il semble que cette répression soit entièrement nationale. Elle n'a que très peu d'importance pour le reste du monde. Je dirais qu'il y a au moins 3 impacts importants. Mais cette répression a un impact énorme sur l'économie chinoise parce que le secteur fiscal chinois contribue à plus de 40% du PIB de la Chine et à plus de 20% de sa main-d'œuvre active. Il s'agit donc d'un élément très important de l'économie chinoise. Et c'est aussi l'une des principales raisons qui ont contribué au ralentissement économique actuel de la Chine. Je veux dire par là que l'économie chinoise est extrêmement importante pour l'économie mondiale. Pour cette seule raison, il est donc important de comprendre ce que fait la Chine avec son secteur fiscal. Deuxièmement, d'un point de vue plus concret, on constate que la répression dans le secteur de la technologie n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi une question de sécurité. La répression dans le domaine de la technologie, non seulement parce que les géants nationaux de la technologie qui ont été la cible principale de cette répression, mais aussi parce qu'elle a conduit à un nouveau recul des entreprises technologiques étrangères opérant en Chine. Il n'y a pas beaucoup de plateformes de médias sociaux, des entreprises américaines de médias sociaux comme Facebook et Google. Je veux dire par là qu'elles sont relativement moins présentes en Chine en raison de la censure et de la grande muraille de feu érigée par le gouvernement chinois. Il n'en reste pas moins que de nombreuses entreprises opèrent en Chine. Vous voyez Apple, Tesla. Pendant la répression, nous avons vu certains acteurs se retirer, comme Lincoln qui s'est retiré, Yahoo s'est également retiré. Il est évident que ces entreprises n'ont pas eu beaucoup de succès sur le marché chinois. Mais je pense que la répression a été, en quelque sorte, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce qu'elle a créé tellement de données, tellement de conformité réglementaire pour ces entreprises, parce qu'elle a promulgué beaucoup de pertes de données. Ces entreprises ont donc décidé que les coûts d'exploitation et les coûts de mise en conformité avaient considérablement augmenté. Il n'est tout simplement pas rentable de continuer à opérer sur le marché chinois. Les entreprises technologiques chinoises, après s'être améliorées pendant 18 mois, pensent que, même si la réglementation s'est assouplie, elles ressentent toujours, au fond d'elles-mêmes, l'effet dissuasif d'une répression potentielle. Ils se sentent donc très peu sûrs d'eux. Les entreprises chinoises et les entrepreneurs eux-mêmes sont aujourd'hui plus désireux de s'aventurer à l'étranger pour développer leurs activités. Certaines d'entre elles ont connu un succès fulgurant. Même avant la répression, ByteDance et TikTok ont connu un succès fulgurant sur le marché américain. Mais au cours des 2 dernières années, de plus en plus d'entreprises se sont lancées à l'étranger, comme Temu, qui appartient à Pinduoduo et qui a connu un grand succès sur le marché américain. Xin, qui est une entreprise de mode rapide, a également obtenu d'excellents résultats. De nombreuses startups chinoises spécialisées dans l'IA s'aventurent désormais à l'étranger. Mais il est évident que lorsqu'elles vont à l'étranger, elles font de leur mieux pour dissimuler leur identité chinoise, car c'est devenu un obstacle majeur à leur réussite sur les marchés étrangers.
Dans le livre, vous comparez les actions réglementaires chinoises à celles de l'Occident. Mais je me demandais, en lisant votre livre, qu'est-ce que les régulateurs occidentaux pourraient apprendre de l'expérience chinoise?
Oui, c'est vrai. Je pense en fait que le cas de la Chine est une sorte d'exemple extrême qui nous permet de voir quand, vous savez, la régulation peut se faire au niveau de l'entreprise, à la vitesse de l'éclair, c'est-à-dire à une vitesse et une vélocité qu'aucune autre juridiction ne peut égaler. J'ai entendu de nombreux universitaires et décideurs politiques progressistes se plaindre de la lenteur du processus réglementaire, de la frustration qu'ils éprouvent à l'égard de leur système actuel de réglementation, en particulier aux États-Unis, où la FTC et le DOJ ont intenté de nombreuses actions en justice. En fait, 4 des 5 principales grandes entreprises technologiques ont fait l'objet de poursuites judiciaires de la part de la FTC ou du DOJ. Mais si vous regardez leurs antécédents dans le passé, elles ont très bien réussi à défendre leur cause devant les tribunaux. Le régulateur se sent très frustré. Mais je tiens à leur dire à ce public frustré de l'Ouest que, écoutez, le fait que vous ayez un système de contrôle et d'équilibre très solide dans votre système juridique est une bénédiction déguisée. Parfois, il se peut que vous ne souhaitiez pas que l'agence agisse aussi rapidement, comme le montre l'exemple extrême de l'affaire chinoise, où les agences peuvent aller de l'avant avec très peu de résistance de la part des entreprises. Et cela génère, en fait, d'énormes conséquences imprévues. Je veux dire par là que vous préférez que le système évolue plus lentement. Oui, ce n'est pas ce que vous auriez pu espérer de mieux, mais c'est quand même le meilleur parmi les pires.
Dans le domaine des technologies, évidemment, le sujet de l'heure, c'est l'intelligence artificielle. Comment vous croyez que le gouvernement chinois va être capable de contrôler, d'encadrer le développement de l'intelligence artificielle en Chine?
Très bonne question. Dans le dernier chapitre du livre, j'attends avec impatience de voir comment la Chine va réglementer l'IA, en particulier l'IA générative. Pour l'instant, ils appliquent une position assez laxiste, en fait plus laxiste que l'on pensait qu'ils le feraient pour réglementer cette technologie. C'est un peu comme le cycle de réglementation de l'industrie chinoise des technologies grand public dans les premières années. Le gouvernement a été très encourageant, très favorable au développement de la technologie. À l'époque, nous avions l'initiative Internet Plus et aujourd'hui, nous avons l'initiative AI Plus. Et nous venons de terminer 2 sessions du Congrès national du peuple où le nouveau mot à la mode est la nouvelle force productive de qualité et où l'IA est mise en avant comme l'une des technologies clés qui peuvent permettre à la Chine d'améliorer son développement industriel. Tout le monde compte donc sur l'IA, sans parler de la rivalité technologique sino-américaine très intense en ce moment. La Chine est à la traîne par rapport aux États-Unis, en particulier dans le domaine de l'IA générative. Le gouvernement est donc plus enclin à favoriser cette technologie qu'à en contrôler la croissance. Ainsi, lorsque le gouvernement marche sur la corde raide et tente d'équilibrer ses intérêts divergents, il penche pour le développement plutôt que pour la réglementation. Nous sommes donc dans une sorte de lune de miel réglementaire avec l'IA, bien que le pendule ne puisse pas bouger très rapidement si un grand désastre se produit ou si une catastrophe survient.
En terminant, Angela Zhang, qu'est-ce que vous espérez que vos lecteurs vont retenir de iWire?
Je veux que les lecteurs comprennent qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre sur la réglementation de la technologie en Chine, mais plus généralement, je veux que les lecteurs voient ce livre comme un livre qui les aide à réfléchir de manière plus générale à la manière dont la Chine réglemente ses activités. L'économie chinoise est actuellement au plus bas. C'est vrai. Je veux dire que si vous réfléchissez à la manière dont nous pouvons relancer l'économie chinoise, à ce qui peut fondamentalement changer et aux perspectives de l'économie chinoise, nous devons vraiment revenir à son modèle réglementaire distinct, n'est-ce pas? Comment le problème a-t-il commencé? À mon avis, le problème est né du fait que nous avons un système de régulation très strict, très étroitement contrôlé. Cela signifie que si nous voulons vraiment réformer le système et briser le cercle vicieux que nous observons aujourd'hui, nous devons mener des réformes institutionnelles sérieuses et drastiques. En mettant de côté toutes les réformes monétaires et fiscales dont parlent les économistes, je pense qu'elles ne s'attaquent qu'au problème des services. Si nous ne nous engageons pas réellement dans des réformes institutionnelles profondes, il sera très difficile de relever fondamentalement les défis économiques auxquels la Chine est confrontée aujourd'hui.
The China is facing today.
Angela Zhang, merci d'avoir répondu à mes questions.
Thank you so much. It was a great pleasure.
Alors voilà mon entrevue avec Angela Zhang. Elle est professeure associée en droit. Elle est également directrice du centre Phillips K.H. Wong sur la loi chinoise à l'Université de Hong Kong. Et le titre de son livre s'appelle iWire. Ça vient de sortir. Et si vous allez sur le descriptif de cet épisode de mon carnet, vous trouverez un lien pour commander le livre si le sujet vous intéresse.